Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous écoutez Radio Grenouille et ça vient pas de nulle part. Aujourd'hui, une histoire de l'affaire du voile islamique en France.
Moi, j'en connais pas. Hein. J'en connais pas de filles de 20 à 30 ans, même plus vieilles, même plus jeunes, qui sont forcées. J'en connais qui sont malheureuses de pas le porter. Ah, j'en connais. J'en connais plein. Bah, de pas le porter parce que leurs parents ne veulent pas, elles ont peur de l'entourage, elles ont pas assez le courage. Ah, ça, j'en connais plein. Qui n'osent pas sauter le pas, comme on dit, par peur des gens et. Des gens, est-ce qu'ils pourraient penser par peur de leur avenir, de se sentir exclus, y en a plein. C'est dommage, c'est dommage.
En 1989, dans un ouvrage ethnographique consacré aux coiffes traditionnelles des Charentes, Christian Jeunet et Pierre Coupry rappelaient une tradition française aujourd'hui disparue, mais qui a perduré jusqu'au milieu du XXe siècle. Celle qui voulait qu'en entrant dans une église, les femmes se couvrent la tête. La femme en cheveux, découverte, était alors assimilée à une sorcière, à l'aspect démoniaque. Du reste, en rencontrer une dans la journée était considérée comme un mauvais présage. Cela avait même la réputation d'effrayer les loups. Mais les modes et les traditions changent. Désormais, c'est la femme voilée qui inspire la crainte, qui suscite le rejet, comme en témoignait la jeune femme voilée que l'on vient d'entendre. C'est un peu sur ce grand retournement des mœurs que nous allons nous pencher aujourd'hui, très modestement et très partiellement, puisque plus que d'autres, ce sujet tant passionné interdit toute prétention à l'exhaustivité. Dans l'heure qui suit, vous allez entendre trois voix, trois femmes, trois points de vue. La dernière d'entre elles s'appelle Sœur Marie-Paul, elle est religieuse, catholique, et elle nous décrira son rapport à un voile qu'elle porte quotidiennement, mais pas systématiquement. Avant cela, nous aurons entendu Françoise Lorcerie. Directrice de recherche au CNRS, elle a suivi de près l'affaire du foulard islamique en France. Elle nous racontera la genèse de la prohibition du voile dans le champ scolaire, depuis la première polémique en 1989, jusqu'à la loi d'interdiction en 2004. Mais tout de suite, nous partons en région parisienne pour retrouver Inès. Inès est étudiante en communication et, à la fin de l'adolescence, ses convictions religieuses musulmanes l'ont décidé à porter sur sa tête un foulard. Elle nous explique ce choix et ce qui l'a changé dans sa vie quotidienne. Le regard des autres, le boulot, la fac, les garçons. C'est un témoignage enregistré au printemps dernier avec le soutien technique d'Arte Radio. On écoute.
C'est vrai qu'un des rares travaux pour lequel on a le droit de porter le voile, c'est femmes de ménage. Et ça me fait rire un peu, il y a eu une polémique l'été dernier qui avait éclaté sur... La question du voile à l'université et je sais plus quel blogueur avait lancé ce tweet sur Twitter qui avait été retweeté mais un bon millier de fois, c'était on autorise les femmes voilées à l'université seulement quand elles font le ménage, par contre quand elles veulent étudier, là c'est problématique. Et je savais que je voulais le porter mais je savais pas quand, il fallait que je me détache un peu du regard des autres, parce que j'avais peur du regard des autres, mais aussi que je renouvelle ma garde-robe. Ça, c'est drôle, mais c'est vrai. Et j'appréhendais un petit peu, j'attendais d'être prête. Et il y a un petit événement qui m'a fait réagir, en fait, dans ma vie. Ça a été le décès de mon arrière-grand-mère, donc un accident de voiture. Et je me suis rendu compte, j'ai pris conscience qu'on pouvait vite mourir et qu'il fallait pas que moi, par exemple, je meure en regrettant de ne pas avoir fait quelque chose. Et cette chose-là, ben, c'était de porter le voile. Alors, ce jour-là, j'étais en Tunisie, en vacances, et je devais retourner en France, donc prendre l'avion, et j'allais sortir pour aller à l'aéroport. J'ai fait mes valises et je me suis dit non là ça y est, je veux le porter, c'est définitif, je rentre en France en portant le voile, en étant voilée. Et du coup je l'ai porté et on est parti à l'aéroport et voilà, ça y est, je le portais quoi, j'ai pris l'avion etc. Et voilà, c'était en juillet 2009, fin juillet 2009, je venais d'avoir 16 ans.
Alaykoum salam, ça va ? C'est pas grave ?
Tu vas bien?
Bonjour.
C'est
enchanté.
On y va?
Ouais, il a décollé alors.
En portant le voile ce premier jour, j'avais l'impression d'avoir un poids en moins sur les épaules, en fait. Un poids en moins, c'était vraiment ça. Je me sentais libérée, j'étais moi-même. C'était un peu comme si j'avais fait mon coming out un peu. C'est drôle de dire ça, mais c'était vraiment... là, je me présentais au monde tel que je voulais vraiment être.
T'es consciente que là, à partir de maintenant, t'as plus le droit de me dire que j'ai eu dans une campagne?
Je demande pardon?
Est-ce que t'es consciente que
non, tu non, m'as... non, attends, je vais te faire faire le tour de ma ville, tu vas voir. Attends.
Mais c'est une campagne de ouf.
Mais t'es folle ou
mais
quoi?
C'est toi,
ça, c'est une campagne. Je vis pas à la campagne. Toi, tu vis à la campagne, il y a un lac. Moi, attends. Là, c'est parce que c'est
une
Franconville.
Campagne.
Non, ça c'est Franconville, c'est pas chez moi ici.
Ouais, c'est ramène-moi chez toi.
Ouais.
Mais ça reste une campagne.
Non, pas du tout.
J'avais un peu peur du regard des autres. Surtout en arrivant en France parce que bon... c'est connoté, il y a plein de clichés qui sont liés à ça. Hein. La soumission à l'homme, etc. La dépréciation de la femme, tout ça. Et donc, j'avais peur qu'on me juge par rapport à ça. Alors que pour moi, le voile, c'est pas du tout ça. Et je suis pas du tout soumise, je suis vraiment libre.
T'as pas tes clés ?
J'ai pas mes clés. Des fois, on me laisse dehors.
T'es sérieux ?
C'est
Aïssatou. Enchantée.
Enchantée. Et ma petite sœur qui commence à écrire ça.
J'ai jamais eu l'occasion de parler de ça. Donc religion en gros, ramadan, prière, on parle de ça, mais mettre la voile, je l'ai laissée libre. Mais les jours où elle l'a mis, vraiment, c'était... ouf, c'est un soulagement à l'intérieur en fait. Pour moi, c'est une sorte de... Une fille qui met la voile, c'est une sorte de protection aussi, intérieure et l'extérieure. Elle va se comporter plus correctement.
Je mélange sucre chacun après vous rajouter.
Il est très bon ton sucre.
C'est vrai, je l'ai fait à la va-vite.
Je n'ai jamais réussi comme ça.
C'est vrai? Et en plus, j'ai oublié mon ingrédient secret aujourd'hui.
Ah ouais.
J'étais dégoûtée, ouais.
Je trouve que la coquetterie, c'est une nature en fait. Tu peux pas lutter contre ça. Enfin, ça fait partie de soi parce que, enfin, ça fait partie de l'amour qu'on a pour soi, pour son corps. Donc, c'est pas parce qu'on porte le voile qu'on va pas être coquette. Enfin, on est comme toutes. On met des crèmes, on s'hydrate, on se lave, on va mettre un petit peu de poudre. C'est vrai qu'on va pas se maquiller comme une voiture volée parce que on est censé être discrète, pudique et ne pas trop attirer l'œil sur les atours de notre physique.
Et du coup là c'est mes foulards en fait. Et du coup ouais j'en ai plein. Mais ce qui ressort c'est que je mets toujours les mêmes en fait. Le noir, les gris. Après c'est sûr qu'en été, comme en été je porte plus des couleurs, bah, je vais assortir avec ce que je mets. Bon ça par exemple c'est un foulard d'hiver que je mets avec cette veste là.
Il est beau celui-là ma chérie.
Je le mets pas souvent parce qu'il tient, il tient pas très bien. Non, c'est pas ça, c'est qu'il tient pas très bien. La soie, ça tient pas, ça glisse. Donc du coup, je suis toujours obligée de le remettre. Il y a mes cheveux qui dépassent et tout. Donc j'aime bien les foulards en coton, moi. Celui-là, par exemple, c'est un foulard d'hiver. Il est bleu. Il est très épais, il est lourd. C'est en coton. Après, j'ai des foulards d'été qui vont être super légers, limite transparents. Donc je vais mettre un bonnet en dessous. Enfin, un bonnet en coton en dessous pour pas avoir chaud, en fait. Il fait chaud, non?
Ouais, ça va.
Mais je vais me raffiner.
J'appréhendais le regard de mon entourage. Donc au lycée, parmi mes amis, c'est assez bien passé, en fait. Je leur ai dit, elles m'ont vu, elles m'ont dit, mais Inès, c'est toi et tout. Je leur ai dit, mais oui, c'est moi. Je leur ai expliqué pourquoi j'avais porté et je leur avais dit que c'était pas mon père qui m'avait porté ou quelques autres clichés qu'elles pouvaient avoir et... elles m'ont dit que ça changeait rien pour elles, que j'étais quand même leur amie et que finalement c'est juste un truc sur la tête et qu'au final ben ça changeait rien. Mes amies qui étaient musulmanes l'ont pris vraiment comme quelque chose de bien. Elles étaient admiratives, elles m'ont dit mais c'est super par rapport à ta religion, par rapport à la foi, c'est bien, t'es en train d'avancer, nous aussi plus tard on aimerait être comme toi. Et y a certaines amies... Qui m'ont demandé si c'était vraiment moi qui le voulais, que c'était dommage parce que j'étais belle, que j'avais des beaux cheveux, etc. J'aurais dit mais... J'ai réexpliqué et pourquoi je l'avais porté. Finalement, elle comprenait mieux.
En fait, j'ai eu un job donc, dans une grande surface. Cora, c'est à côté de chez moi, là. Et du coup, j'y étais. Donc, j'avais un bonnet, en fait, sur la tête. C'est un bonnet normal. J'avais un col roulé. Et quand je suis arrivée, etc., c'était quand j'ai pseudo commencé jeudi. J'y étais, etc. Et d'entrée de jeu, la chef m'a dit écoute, c'est pas du tout contre toi ni quoi que ce soit. C'est pas par rapport à tes croyances ou quoi. Mais ici, c'est carrément interdit dans le règlement d'avoir la tête couverte. Elle m'a dit que ce soit un bonnet, une capuche, une casquette ou un foulard, elle m'a dit c'est interdit. Donc. Je veux te protéger, je veux pas que tu te prennes des mauvaises réflexions par les supérieurs, etc. Donc moi je te le dis directement. Et donc du coup voilà, ça voulait dire ce que ça voulait dire quoi. Bah du coup ouais, j'ai enlevé mon bonnet quoi. C'est triste hein, je suis pas super heureuse comme ça, mais bon je me dis que j'ai besoin de travailler pour pouvoir payer mes études l'an prochain et pouvoir réussir à m'affirmer avec mes diplômes plus tard, avec la qualité de l'enseignement que j'aurai reçu, de venir à l'entreprise et de leur dire voilà, moi maintenant il faut me prendre comme ça, j'ai fait des sacrifices, etc. Pour avoir une vie meilleure plus tard et vivre selon mes convictions. Et du coup je me dis que les études c'est super important, donc que je suis obligée de passer par là pour pouvoir ensuite avoir ce que je veux vraiment. Du coup, je sais pas où on va se garer. Je vais me garer au parking du centre. Hein.
Oui.
Ouais.
J'avais 14 ans. J'étais en manque de repères. Hein. Ma lettre adolescent comme tout adolescent. Et du coup, j'ai voulu m'intéresser un peu à ma religion pour essayer d'y chercher du repos. Le repos de mon âme. C'est ce que je cherchais en fait. Et je me suis lancée à la lecture du Coran. J'ai commencé. Et finalement, j'ai découvert un texte parfait. J'ai commencé à prier, commencé à me poser des questions par rapport à ma vie de tous les jours, etc. Est-ce que c'est bien de faire ça ou est-ce que c'est mal de faire ça? Et c'est donc là que je suis arrivée à la volonté de porter le voile, parce que pour moi, c'était une évidence dans la religion. Une femme, par pudeur, doit se couvrir. C'est comme un bijou qu'on mettrait dans un écrin pour pas qu'il soit abîmé. Et du coup, pour moi, c'était comme une évidence. Dieu nous l'avait prescrit à nous, les femmes, pour nous protéger, pour être vues seulement à travers celles qu'on aime et pas par rapport aux attributs physiques qu'on pourrait avoir.
Ah ouais, d'accord.
Du coup, là, tout de suite, quand on entre, on a vraiment des jolies robes, donc longues, à manches longues. On voit des strass, des paillettes, etc. Il y a plein de genres de styles parce que, enfin, on a des choses courtes que les femmes peuvent mettre quand elles sont entre femmes. Et il y a des choses plus longues que les femmes peuvent mettre quand elles sortent à l'extérieur. Donc là, on a une robe rouge, un peu robe de Dubaï, qui est super jolie.
Ouais, elle est trop jolie.
Donc remontée jusqu'au col avec des petits diamants. C'est vraiment intéressant à voir ici. En plus, je pense qu'il y a toutes les tailles hein, parce que. Ouais, il y a du 38 jusqu'au 44, ouais, il y a plein de tailles. C'est super.
Regarde celle-là.
Oh, ouais, elle est belle.
Elle est trop jolie.
Quand je prends les transports, j'ai des gens qui vont me regarder de manière insistante et puis qui vont soupirer. Ou alors quand je vais passer, ça va être des soupirs, des mots prononcés dans la barbe, genre sale race ou oh putain, ces arabes. Des choses comme ça. Mais bon. J'essaie de faire avec, ça fait partie des choses. On ne fait jamais l'unanimité. Et bon, je me dis que ces gens-là ne comprennent pas ma démarche et ne comprennent pas, moi, la valeur que j'accorde à ma façon de m'habiller. Et donc, c'est pour ça qu'ils réagissent comme ça. Et ça me permet, finalement, de mettre de côté ma colère.
Ah oui, voilà, il y a un bar à foulard. Un petit bar à foulard, c'est mignon. Attendez-moi, on va regarder ça. Donc là, on a des petits foulards qui sont entreposés. On a vraiment tout type de couleurs et tout type de tissu. Donc là, je vois qu'il y en a en coton, il y en a qui sont en satin, il y en a qui sont imprimés, il y en a qui sont unis. Moi, j'aime bien celui qui est violet avec des points noirs. Il est mignon. Après, les autres, moi, j'aime pas quand il y a trop d'imprimés, trop de couleurs différentes parce qu'après, tu sais pas avec quoi le mettre.
Est-ce que je me fais toujours draguer par les garçons? Alors je dirais oui, mais pas par les mêmes garçons. Comme je suis d'apparence musulmane, ça va plus être des garçons musulmans qui vont venir me parler. Et, je pense qu'ils ont dans la tête cette image de comme je porte le voile, je suis pieuse et donc il faut m'aborder avec plus de respect. Et donc je pense que tous ceux qui ne voudraient pas forcément quelque chose de très sérieux, etc., ben, ils viennent pas trop vers moi, je pense. Mais il y a des relous quand même.
Claude Bolling, une version jazzy de La Marche Turque de Mozart. C'est maintenant le deuxième temps de cette émission qui nous mène à Aix-en-Provence, dans le bureau de la chercheuse Françoise Lorcery. Ensemble, nous allons tenter de comprendre comment et pourquoi, depuis plus de 25 ans, la controverse autour du voile islamique a pris tant de place dans le débat public. Françoise Lorcery, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes directrice de recherche au CNRS, spécialisée dans les questions d'intégration, de discrimination, la politique d'éducation, je crois. Quand est-ce que cette question du voile est apparue sur la scène politico-médiatique?
Elle est apparue à la rentrée 1989 avec la fameuse affaire de Creil, l'affaire de trois filles qui ne voulaient pas quitter leur foulard à l'école. Elles étaient des collégiennes, donc. Et le chef d'établissement, qui était amené à être ensuite un député siégeant dans la tendance Pasqua à l'UMP, à l'Assemblée nationale, ce chef d'établissement, donc, a mis en œuvre des procédures disciplinaires qui ont abouti à l'exclusion des filles. Il se trouve que ça a été aussi un moment où l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, venait de s'organiser, et plus généralement la population musulmane de France commençait à s'organiser, commençait à y avoir des associations. Et donc en 89, à la fin de cette décennie des années 80 qui voit les beurs, hein, les jeunes issus de l'immigration maghrébine se manifester dans l'espace public avec des demandes de citoyenneté et d'égalité, à la fin de cette décennie, on voit que le choix des beurs n'a pas été couronné de succès, et que leur demande d'être reconnus comme des citoyens et implicitement d'être invités à faire partie des états-majors partisans, ou en tout cas des futurs cadres dans les partis, ça n'a pas été couronné de succès. Et par conséquent, on voit aussi les jeunes, à ce moment-là, se tourner vers d'autres formes d'expression. Et on commence à entendre dire, il y a de plus en plus de foulards, les jeunes se voilent, il y a une espèce de retour à l'islam, ce que Gilles Kepel, qui avait fait une assez bonne observation avec les banlieues d'islam en 87, 85, 86, 87, appelle la ré-islamisation des jeunes. C'est ce moment-là. Et c'est donc dans ce contexte de nouvelle organisation de l'islam en France et de ré-islamisation, supposément des jeunes, en tout cas de se tourner vers l'islam pour affirmer une partie de soi-même qu'on tient à affirmer, c'est dans ce contexte-là qu'arrive la première affaire de foulard à Creil.
Journal télévisé d'Antenne 2, le 5 octobre 1989.
L'objet du délit, le foulard, plus précisément le zif marocain que portent Fatima et Leïla selon leurs convictions musulmanes.
Je crains en Dieu. Je crains de personne, sauf le Dieu. Je porterai toujours mon foulard jusqu'à ma mort.
Fatima et Leïla ont 14 et 13 ans. Elles étudient le Coran chez elles, au tableau noir, depuis l'âge de 3 ans. Elles font leurs 5 prières par jour, mais leur but dans la vie, c'est aussi de réussir à l'école.
Moi, je veux continuer mes études, je veux travailler.
Fatima et Leïla ne sont pas exclues du collège Georges Havez, mais l'accès leur en est refusé tant qu'elles porteront le foulard pendant les cours. Principe de laïcité oblige.
Le problème n'est pas des croyances, le problème est de la manifestation extérieure de cette croyance dans l'enceinte des locaux scolaires et notamment en classe.
Le collège, placé en zone d'éducation prioritaire, compte 850 élèves de 25 nationalités différentes, dont 500 musulmans. Le problème, c'est de vivre en collectivité et conformément à la notion de neutralité politique ou religieuse.
Encore ce foulard, je me demande moi si j'ai un kirka. Est-ce que ce foulard est j'inquiète?
Un père qui lui aussi parle de tolérance et nie faire pression sur ses filles.
Moi, si vous voulez, c'est pas mon problème. Si mes filles, ils veulent venir aujourd'hui sans le foulard, moi, je n'ai aucun mot à dire.
Vous ne les forcez pas à porter le foulard?
Absolument pas.
Pour la première fois aujourd'hui, un mois après la rentrée scolaire, le dialogue s'est engagé entre le père des jeunes filles et le principal du collège. Un dialogue difficile qui peut-être ouvrira sur une solution.
Françoise Lorsori, je vous ai vu prendre des notes pendant qu'on écoutait cet extrait, une réaction.
Oui, effectivement, la réaction de la journaliste, elle est assez significative, assez représentative de ce qu'on peut appeler la représentation courante de la laïcité. Parce que une des choses qui ressortent de l'affaire et de la façon dont elle a été traitée, non seulement aux politiques, mais dans l'opinion publique, c'est que les gens communément ont une image de la laïcité, un imaginaire, on pourrait même dire, de la laïcité supposément française, mais cet imaginaire est en décalage par rapport au droit. Et c'est ce qu'il est apparu très clairement, finalement, dans cette première affaire du foulard, quand le Conseil d'État a donné le résultat de sa consultation, son avis en Assemblée générale, donc un avis fort solennel, et que cet avis s'est trouvé quand même sensiblement décalé par rapport à l'opinion collective sur la laïcité. C'est quoi ? La laïcité, ça oblige. Ce premier extrait est très intéressant parce qu'il est vraiment sur le vif. On n'a pas encore tout ce qui a suivi pour dire non mais la laïcité c'est pas ça, la laïcité c'est ça, ou bien non. Enfin, toutes les échanges qui ont finalement abouti à des visions assez tranchées de la laïcité c'est ou ça n'est pas. Parce que le dernier livre de Bobéro dit les 7 laïcités françaises. Jean-Pierre Aubin en voit 10. Moi, je dis il y en a 2 qui s'affrontent de façon très importante aujourd'hui. Mais en tout cas, à cette époque-là, on n'en est pas là. Il est évident, il est naturel que la laïcité interdit de porter des signes religieux à l'école. Pour la journaliste elle-même, pour la façon dont elle présente la position du principal, eh bien, on n'a pas à manifester la croyance à l'école. C'est le principe de neutralité politique qui s'impose. Or, depuis 1945, surtout la Constitution, en 46 et la Constitution de 58, avec le droit public qui va avec et avec le fait qu'on a souscrit à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950, qui a un article 9 qui dit que tout individu a droit à manifester et exprimer sa religion individuellement et collectivement, en privé et en public. C'est un article qui confère une garantie de liberté de religion à un très haut niveau. On n'en est plus, comme dit quelqu'un dans le reportage là, à dire que on a le droit d'avoir une croyance, mais on n'a pas le droit de la manifester.
C'est le principal qui s'exprime.
C'est le principal. Mais ça c'est le type de liberté religieuse qu'il y avait au XVIIIe siècle, sous l'Ancien Régime. On avait le droit d'être protestant dans son fort intérieur, comme disait. C'était la loi du fort intérieur. On avait le droit d'être protestant ou de ce qu'on voulait, en soi-même, mais il ne fallait pas que ça s'entende, il ne fallait pas que ça se voie. Mais on n'en est plus là. On en est maintenant au fait que tout un chacun, nous avons le droit d'avoir des croyances ou de n'en pas avoir, d'être protégé dans ses croyances et d'avoir la possibilité de les exprimer. Je dirais même plus, la convention à laquelle nous avons souscrit ne proscrit pas le prosélytisme. On entend parfois dire le prosélytisme est interdit, le prosélytisme est protégé par la loi. Donc là, dans l'espace scolaire, ce qu'on va voir peu à peu se développer, c'est un ensemble de dispositions pour limiter les libertés auxquelles ont droit les élèves. C'est ce que fait déjà le Conseil d'État dès son premier avis. D'une part, il dit « elles ont le droit de manifester leur religion », et d'autre part, il dit « dans l'espace scolaire, en raison des activités particulières qui y sont menées, des traditions de notre école en France, eh bien, on n'a pas le droit de faire du prosélytisme, de la propagande, des actes de pression, de troubler l'exercice des cours, etc. » Donc, il y a toute une série de limitations qui font qu'on ne peut pas manifester sa religion comme on le pourrait dans le reste de l'espace français, y compris public, pas seulement privé, parce qu'il y a des contraintes propres à l'espace scolaire.
Le Conseil d'État qui avait été saisi finalement à la demande de Lionel Jospin, qui était ministre de l'Éducation nationale à l'époque, et qui essayait de ménager la chèvre et le chou, on va l'entendre, c'était à l'Assemblée nationale, à la tribune de l'Assemblée nationale, c'était le 25 octobre 1989.
Si se produisent comme se sont produits des cas de blocage, c'est-à-dire d'enfants qui vont à l'école, notamment, mais ils ne sont pas les seuls, il y a aussi d'autres signes religieux actuellement présents à l'école, mais notamment avec un foulard sur la tête, je préconise que les directeurs d'établissement et les enseignants disent à ces enfants et à leurs parents qu'ils ne doivent pas venir à l'école dans ces conditions. S'il y a blocage et s'il y a refus, je dis alors l'école doit accepter et accueillir ces enfants.
Le Conseil d'État va rendre son avis le 27 novembre 1989. C'est un avis qui est un petit peu ambigu et qui va être appliqué au cas par cas, on va dire, par les tribunaux pendant 14 ans.
Alors, l'avis est ambigu quand on le lit comme ça, effectivement, puisqu'il dit le port de signes par lesquels les élèves entendent manifester leur appartenance à une religion, là je lis l'avis du Conseil d'État, n'est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité, dans la mesure où il constitue l'exercice de la liberté d'expression et de manifestation de croyances religieuses. Donc ce qu'on a dit, c'est le fondement du droit public français. Néanmoins, cette liberté peut être limitée parce qu'elle ne saurait permettre aux élèves d'arborer des signes d'appartenance religieuse qui, par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils seraient portés individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire et revendicatif, constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme, de propagande, etc. Et là, effectivement, le texte du Conseil d'État peut donner raison, peut sembler donner raison à la position qui sera celle de Bérou, du ministre de l'Éducation nationale sous le gouvernement de droite, à partir de 1993, qui, dans une circulaire du 20 septembre 1994, proscrira les signes ostentatoires en soi. Tout dépend de ce qu'on appelle signe ostentatoire en soi. Pour le Conseil d'État, et il l'a montré dans la suite de sa jurisprudence pendant 13 ou 14 ans, un foulard n'est pas un signe ostentatoire en soi. C'est un signe qui manifeste une religion, mais manifester sa religion, la position du Conseil d'État est claire, on a le droit. Les élèves aussi ont le droit. Les professeurs et les autres personnels n'ont pas le droit. L'enseignant est tenu à la neutralité. C'est ce qui caractérise les enseignants, c'est ce qui caractérise le programme, c'est ce qui caractérise l'action de l'État, plus généralement. Le service public doit être neutre. Mais les usagers du service public, et les élèves en l'occurrence, qui sont des usagers de l'école, eux, ne doivent pas être neutres. Si l'État doit être neutre, les professeurs neutres, les programmes neutres, c'est justement pour permettre la plus large liberté de croyance chez les usagers du service public. Aucun d'entre eux, dans sa croyance, ne doit être choqué par ce qu'il voit de la croyance des personnels auxquels il a affaire au titre du service public.
Pourtant, au cours des années 90 et au début des années 2000, il va quand même y avoir quelques dizaines de jeunes femmes musulmanes qui portent le voile et qui vont être exclues de classe.
Alors, il n'y en a pas eu beaucoup, figurez-vous. Il n'y a pas eu beaucoup de litiges qui abouti à des exclusions. Et à la fin, lorsque finalement le gouvernement de Jacques Chirac mis en place, hein, Raffarin, a décidé de relancer l'affaire et d'arriver à une loi proscrivant les signes religieux à l'école, il n'y avait plus d'affaires à l'école, ou très peu.
Think it is my brother Charlie. Think it is meu irmão de cor. Think it is my brother Charlie. Think it is meu irmão de cor. Pois a rosa é uma flor, a rosa é uma cor, a rosa é um nome de mulher. Rosa é a flor da simpatia, a flor escolhida no dia do primeiro encontro do nosso dia com a vida querida, com a vida mais garrida. Think it is Charlie. Think it is my brother Charlie. Think it is meu irmão de cor. Think it is my brother Charlie. Think it is meu irmão de cor. Depois que o primeiro homem maravilhosamente pisou na lua, eu me senti com direitos, com princípios e dignidade de me libertar. Por isso, sem preconceito, eu canto a fantasia, eu canto o amor, eu canto a alegria, eu canto a fé, eu canto a paz, eu canto a sugestão, eu canto na madrugada. Take it easy, my brother Charlie, pois eu canto a...
Take it easy, my brother Charlie, c'était Georgie Benjor sur Radio Grenouille. Vous écoutez Ça vient pas de nulle part, et aujourd'hui, une petite histoire de l'affaire du foulard islamique en France, avec Françoise Lorcerie, directrice de recherche au CNRS à Aix-en-Provence.
En 2002, la droite revient au pouvoir, et elle lance ce que vous appelez une entreprise politique pour interdire le voile et, par la même occasion, tous les signes religieux à l'école. Cette loi finalement sera votée en mars 2004 par une majorité extraordinaire à l'Assemblée, 494 voix pour, 36 voix contre. Pourtant, en 2002, il n'y avait pas une telle majorité, un tel consensus autour de cette proposition d'interdire le voile à l'école.
Oui, tout à fait. Dans cette opération, j'appelle ça une entreprise politique parce que ça a impliqué beaucoup d'acteurs, beaucoup de catégories d'acteurs qui se sont coordonnés pour obtenir une loi. Au départ, le Parti socialiste était légaliste. Je ne dirais pas qu'il avait accepté de proclamer la laïcité telle qu'elle était la laïcité de droit, la laïcité que préconisait le Conseil d'État, c'est-à-dire valoriser les libertés et le dialogue entre les gens. Je ne crois pas que le Parti socialiste n'avait pas proclamé cette version-là de la laïcité, mais il ne s'y opposait pas. Et ils avaient assumé le fait de ne pas faire de discours contre. Dans l'entreprise, dans la durée de l'entreprise en question qui a amené à la loi, le principal but politique en fait, de l'action, ça a été la conversion officielle de l'essentiel du Parti socialiste. Et finalement, ce qui était la majorité du Parti Socialiste, jusque-là où une majorité silencieuse a accepté de passer de l'autre côté et de dire, bon, entendons-nous pour ça, arrêtons effectivement les signes religieux, notamment le foulard islamique à l'école, et puis après on en parle plus, on passe à autre chose. Ils se sont rendus compte de leur erreur assez vite. Parce que c'est faux de dire que la loi a calmé le jeu. La loi a déchaîné, au contraire, des passions sur ça c'est un signe religieux, ça c'en est pas. On les proscrit à l'école en application de la laïcité, mais alors pourquoi on n'empêche pas à l'université? Pourquoi on n'empêche pas à la mairie? Pourquoi on n'empêche pas dans les banques? Pourquoi on n'empêche pas dans les antichambres des médecins? Pourquoi on n'empêche pas à l'hôpital, etc. Ça a été le départ, en réalité, d'une machinerie qui a cherché à interdire le foulard, et là non plus aux enfants, mais à tout le monde, dans tous les espaces de la société. Et on n'en est pas sorti jusqu'à 2013, jusqu'à 2012-2013, jusqu'à la fin du Haut Conseil à l'intégration présidé par Patrick Gobert et jusqu'à la prise en compte du problème par les socialistes revenus au pouvoir. Les socialistes, pendant 10 ans, ils se sont retrouvés privés d'initiative sur ces questions. Ils ont commencé à retrouver l'initiative avec la loi Bourca, qu'ils n'ont pas votée. Sauf Manuel Valls et quelques autres. Mais en grande majorité, le Parti Socialiste s'est abstenu de voter la loi Bourca.
La loi Bourca, donc, qui est votée en 2010.
Et qui, donc, avait pour but de proscrire, d'interdire, c'est une simple contravention, hein, c'est pas bien grave, ce qu'encourent les femmes qui portent le voile intégral. D'ailleurs, effectivement, ça a quand même, là, pour le coup, joué son rôle. Mis à part sur les Champs-Élysées, je crois qu'on ne voit plus de femmes portant le voile intégral. Elles ont accepté de montrer leur visage dans pratiquement toutes, quoi. Mais ce n'était pas du tout une loi qui avait la même emprise sociale que la loi interdisant les signes religieux à l'école. Hein. Mais au moins là, les socialistes se sont ressaisis et ont compris qu'ils ne pouvaient pas continuer à aller dans cette guerre contre l'islam. Quoi. C'est ça, parce que c'est ça qu'il s'agissait. Hein. C'est de guerre contre tous les signes d'islam dans l'espace français. Et proscrire les signes d'islam, alors on en était à la guerre au halal, enfin bon, à tout ce qu'on a vu au moment de l'élection présidentielle 2012. Hein. On mangeait du halal sans le savoir, c'était abominable, enfin on en était arrivé à des folies. Quoi. Les étrangers étaient complètement fascinés, hein, par ce qui se passait en France.
Oui, alors justement, les étrangers, parlons-en, est-ce que la France est isolée à l'international avec cette loi qui interdit le voile à l'école, ou est-ce que c'est quelque chose qui est partagé dans d'autres pays?
Interdire le port de signes religieux aux enfants scolarisés, on est tout à fait tout seul, oui, tout à fait tout seul, dans les pays démocratiques. Là où certains pays ont hésité, c'est à interdire les signes aux enseignants. Parce que tous les pays ont une conception de la neutralité des agents publics. Mais cette neutralité n'implique pas forcément l'absence de signes disant sa propre adhésion à une religion, à condition qu'on ne la manifeste pas en pratique dans l'exercice de sa profession. Donc la plupart des pays autorisent les agents publics à porter des signes de leur religion. Alors je suis en train de penser, en vous parlant, à un pays qui est toujours très proche de la France dans ses activités, dans ses lois, c'est la Belgique. La Belgique francophone laisse au pouvoir organisateur des établissements la possibilité de mettre dans leur règlement intérieur que les signes religieux ou les couvre-chefs sont interdits.
La Belgique, mais sinon la France est seule. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a en France de particulier qui a fait que ce voile a déchaîné autant de passions ?
Je crois que l'islam déchaîne des passions ailleurs en Europe. Hein. La façon dont l'acharnement contre l'islam s'est traduit en France, elle est française, effectivement. Les autres ont eu un acharnement contre l'islam qui passe plus par des discours, par la presse, qui est peut-être moins agi à travers des lois. Ils ont plus de prudence dans les lois. Alors pourquoi nous, la question s'est posée, moi on s'est posée avec deux collègues et on a pris en charge ce qui se passait en Allemagne, ce qui se passait au Danemark, ce qui se passait en France. Et on s'est dit, un des facteurs qui fait que la France et le Danemark ont connu des excès dans la publicisation, dans la détestation publique de l'islam, c'est le fait que nous n'avons pas, dans notre histoire, pris l'habitude de gérer la pluralité religieuse. Ce qui faisait l'avantage de l'Allemagne dans notre analyse, c'est qu'ils avaient, depuis les traités de Westphalie, ils avaient assumé l'idée qu'il fallait gérer le pluralisme religieux. Ils avaient donc tout un ensemble d'habitudes traduit dans des lois ou pas traduit dans des lois, traduit dans des façons, dans ce qu'on appelle parfois l'éthos collectif, hein, façon de voir, l'imaginaire collectif, qui ils n'ont pas peur de la religion, ils savent gérer la pluralité religieuse en Allemagne. C'était pas le cas au Danemark où il y a massivement une religion collective, qui est d'ailleurs religion d'État, qui les empêche pas de reconnaître la liberté religieuse des autres, hein, mais c'est quand même une religion, c'est le luthérianisme qui s'impose, qui est reconnu comme religion d'État, et nous, avec notre laïcité qui est une catho-laïcité, donc on est passé d'une religion très dominante catholique à une religion très dominante, qui est la laïcité, les religions, on les met de côté, on ne veut pas les voir. Et quand nous est arrivée une religion, l'islam, qui se voit, et qui en plus est la religion des indigènes, de l'indigène colonisé, hein, l'islam, c'est très très présent encore dans nos institutions. Hein. L'islam, c'est quand même une religion dont nous avions fait, lorsque nous avions nos possessions coloniales, y compris l'Algérie, nous avions fait la frontière. On était indigène musulman ou on était citoyen. Mais quand on était indigène musulman, on n'était pas citoyen. Et pour devenir citoyen, il fallait, et c'était soumis au bon vouloir de l'administration, qui pouvait toujours dire non, il fallait renoncer à son statut musulman.
Retour au printemps 2015, c'est-à-dire maintenant. Il y a quelques semaines, il y a encore eu un fait divers concernant une jeune fille musulmane dans un lycée. Alors cette fois-ci, c'était pas le voile qui posait problème, c'était sa jupe qui était trop longue.
Alors ça, c'est très fréquent. C'est très fréquent dans les établissements actuels de voir des filles qui arrivent voilées, enfin voilées avec un foulard ou avec n'importe quel voile, parce que la forme des voiles s'est beaucoup diversifiée depuis les années 90. Donc elles arrivent avec des formes de couverture qu'elles veulent. Elles enlèvent ça à la grille ou juste après la grille, parce que parfois elles font des petites escarmouches, ou bien dans certains endroits, on les autorise de passer la grille, mais d'aller se mettre dans un endroit pour enlever le voile. Bref, elles enlèvent le voile, mais elles gardent d'autres signes par lesquels on peut les reconnaître comme musulmanes. Du coup, les chefs d'établissement disent non, on peut te reconnaître comme musulmane. Donc, la circulaire de 2004, la loi déjà, puis la circulaire qui précise les choses, dit que c'est pas possible. Donc, arrangeons-nous, trouvons des solutions. Et donc, dans plein d'endroits, notamment à Marseille, on trouve des solutions. Alors, dans certains endroits, on peut garder la jupe longue, mais le haut ne doit pas être de la même couleur. On peut garder la tunique et la jupe longue de la même couleur, mais on doit mettre un petit signe de couleur quelque part pour dire, voilà. Bon. Ce qui est nouveau avec l'affaire Sarah de Charleville-Mézières, c'est que le chef d'établissement et l'équipe ont eu cette solution. Ta jupe est trop longue, on voit que tu es musulmane, c'est un uniforme de musulmane, tu la raccourcis, on ne te veut pas comme ça. La ministre a eu une déclaration disant « je soutiens l'équipe ». L'équipe n'a pas eu tort. Mais elle a ajouté, elle n'a pas exclu Sarah pour la longueur de sa jupe, elle a exclu Sarah pour son comportement. Et avec cette réflexion, aucune élève ne peut être exclue en fonction de la couleur ou de la longueur de sa jupe. Cette réflexion est très intéressante de la part de la ministre parce qu'elle va à l'encontre de la circulaire de 2004 qui dit Les signes et tenues qui sont interdits sont ceux dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse, tels que le voile islamique, quel que soit le nom qu'on lui donne, la kippa, une croix de dimension manifestement excessive. Ils ajoutent, la loi est rédigée de manière à pouvoir s'appliquer à toutes les religions et de manière à répondre à l'apparition de nouveaux signes, voire à d'éventuelles tentatives de contournement de la loi. Donc la circulaire est très appliquante. Et effectivement, elle peut amener les équipes à dire à Sarah, ta jupe est trop longue, elle te fait reconnaître comme manifestement musulmane, tu la raccourcis. Par conséquent, ce que dit la ministre quand elle dit...
La ministre actuelle, Najat Vallaud-Belkacem.
Najat Vallaud-Belkacem, quand elle dit « Aucune élève ne peut être exclue en fonction de la longueur ou de la couleur de sa jupe », elle tranche par rapport à la laïcité 2004, par rapport à la circulaire 2004. Elle dit « Non, on va arrêter de proscrire les signes religieux en tant que tels, parce que les élèves en inventent tout le temps, comme le dit la circulaire, elle prévoit qu'ils vont en inventer, ils en inventent, et si on empêche les jupes, ils trouveront autre chose. » La ministre dit, passons à autre chose. N'excluons pas les élèves parce qu'ils portent des signes religieux, mais parce qu'ils ont des comportements religieux. Et elle fait comme si Sarah avait eu un comportement de propagande, de prosélytisme. Ce n'est pas le cas, semble-t-il. Mais si Sarah se voit comme ça victime d'une injustice, c'est probablement le cas. Ce qui est intéressant, c'est quand même la position que prend la ministre en l'affaire, qui dit, si on veut bien l'entendre, mais c'est pas sûr qu'on veuille bien l'entendre, il va falloir travailler pour qu'elle soit entendue. Il lui va falloir à elle travailler et faire travailler sa hiérarchie pour que ce qu'elle dit soit entendu, à savoir arrêter de chasser les signes. C'est pas la chasse aux signes est fermée. Et regardons maintenant les conduites et veillons à faire en sorte que les élèves partagent les valeurs républicaines. Et c'est ça le grand virage qu'a pris la ministre dès avant Charlie, mais notamment après, encore plus après Charlie, c'est de dire l'important c'est que les élèves partagent les valeurs de la République, partage la laïcité. Les valeurs de la République, c'est pas fait pour empêcher les gens d'être eux-mêmes, c'est pas fait pour interdire les libertés, c'est fait au contraire pour les faire s'épanouir dans un esprit de tolérance mutuelle.
C'était une jeune fille qui n'avait pas 15 ans. C'était une jeune fille qui n'avait pas 15 ans. Elle s'était endormie au pied d'un rosier blanc. Son valtar, si son valtar là. Son val qui volait, qui volait. Son val qui volait au vent. Elle s'était endormie au pied d'un rosier blanc. Elle s'était endormie au pied d'un rosier blanc. Le vent souleva sa robe, fit voir son jupon blanc, son val par-ci, son val par-là, son val qui valait, son val qui valait au vent. Le vent souleva sa robe, fit voir son jupon blanc, le vent souleva sa robe, fit voir son jupon blanc. Et d'autres choses aussi, de bien plus cette nuit, son val par-ci, son val par-là, son val qui valait, son val qui valait au vent. Et d'autres choses aussi de bien plus séduisant. Et d'autres choses aussi de bien plus séduisant. Heureux, heureux celui qui sera son âme. Son val par ci, son val par là. Son val qui valait, son val qui valait au vent. Heureux, heureux celui qui sera son amant. Heureux, heureux celui qui sera son amant. Il aura le plaisir de lui prendre souvent. Son val par ci, son val par là. Son val qui valait, son val qui valait au vent. Il aura le plaisir de lui prendre souvent. Il aura le plaisir de lui prendre souvent. De ce que je veux dire là, de son ruban, son val par ci, son val par là, son val qui valait, son val qui valait au vent. De ce que je veux dire là, bout de son ruban, de ce que je veux dire là, bout de son ruban, malheur à vous messieurs qui pensiez autrement, son val par ci, son val par là, son val qui valait, son val qui valait au vent, son val qui valait. Qui valait, qui valait, qui valait.
Son voile qui volait, un chant traditionnel folklorique québécois interprété par Robert L'Herbier en 1949. Ça vient pas nulle part, on ouvre le dernier chapitre. Bien avant d'être musulman, le voile a été assyrien, romain, puis chrétien. En 1905, quand on a voté la loi de séparation des églises et de l'État, certains députés ont voulu interdire aux prêtres de porter leur soutane dans l'espace public. Ils ont échoué et la soutane des curés a gardé droit de cité, tout comme le voile des religieuses catholiques. De nos jours, un certain nombre d'entre elles ne le portent plus. D'autres perpétuent la tradition. C'est le cas de Sœur Marie-Paul que Marie-Noëlle Battaglia a rencontrée à Angoulême dans les Charentes.
Dieu qui fait toutes choses nouvelles, quand passe le vent de l'esprit, viens encore accomplir tes merveilles aujourd'hui. Viens encore accomplir tes aujourd'hui.
Le costume religieux, nous le recevons le jour de notre premier engagement. On appelle ça le jour de la profession. Je professe que je désire être à Dieu pour toujours. Et donc, le voile, c'est un peu le signe de cette consécration à Dieu. C'est-à-dire que je ne vais pas me marier. Et normalement, les hommes savent, si j'ai ce voile, qu'ils n'ont pas à me fréquenter, à me draguer. Donc ma chevelure est voilée, est protégée. J'appartiens à Dieu. Je n'appartiendrai pas à un homme. C'est un peu la signification. C'est la signification primitive. Bon, maintenant, il y a des religieuses qui n'ont plus le costume, qui n'ont plus le voile. Parce que souvent, le costume religieux était des costumes d'époque et était devenu très, très vieux, très ancien.
Et vous m'aviez raconté que justement, dans votre congrégation, cette question de garder...
Oui, on l'a posée plusieurs fois dans les chapitres. Finalement, la majorité des sœurs ont souhaité le garder. Ceci dit... nous pouvons quitter ce voile dans certaines circonstances. Si je suis sur la plage, je suis en maillot de bain, je n'ai pas de costume, ça ne m'empêche pas d'être sœur. Voilà. Et si je suis en pantalon parce que je vais avec des élèves, comme ça m'est arrivé aux classes de neige, en pantalon sur les pistes, ce n'est pas une affaire. Ça ne m'empêche pas d'être religieuse. Je suis religieuse par ce que j'ai prononcé, ce que j'ai désiré, mais pas par un costume. À la limite, costume ou pas costume, moi ça m'est égal. Mais puisque ma congrégation souhaite le garder, bon, c'est un signe. Un signe à double tranchant, quoi, provoquant des réactions, ou positives ou négatives, ça peut arriver, ou l'indifférence. Vous voyez, l'autre jour, je suis allée à l'hôpital psychiatrique voir une personne, et bien je me suis fait insulter parce que j'avais un voile par une femme qui était bon, un peu délirante, mais les bonnes sœurs, elle a hurlé contre les bonnes sœurs. Voilà, c'est pas neutre. Aussi bien, j'attends le métro à Paris, je vois une sœur et on me confie une intention de prière, quelqu'un qui est malade, ou ceci, cela. Ou bien, quelqu'un peut te cacher la figure à cause du voile aussi. C'est pas un signe quand même neutre. Il y en a qui réagissent à cela. Il y en a qui sont complètement indifférents, la plupart du temps, maintenant, surtout avec notre société très laïcisée.
N'as-tu pas sanctifié les prémices du peuple choisi par amour? Illumine tout ce qu'est l'Église, mais toujours. Illumine tout ce que l'Église met toujours.
J'ai remarqué que Sœur Marie-Germaine, par exemple, portait un voile, mais bleu.
On a plusieurs... Non, il n'est pas bleu, il est gris. Normalement, on a le voile gris comme ça, mais plus ou moins décoloré. C'est comme on a la robe bleue, plus ou moins décolorée. Parce que les lessives, ça décolore. Surtout le bleu et le gris, c'est des couleurs qui décolorent très vite. Autrefois, on avait du noir. On a eu du blanc aussi, très salissant. Le noir aussi, c'est assez salissant aussi, d'une certaine façon. Donc on a adopté ceci qui est plus gai quand même que le noir, ni trop vieillot, ni trop extravagant, quoi, ni trop moderne.
Aujourd'hui, dans la religion catholique, toutes les personnes qui sont consacrées à Dieu, qu'ils soient hommes ou femmes, font ce vœu de pas se marier, de pas avoir une famille.
Oui, et puis vœu aussi de vivre simplement, pauvrement, sans chercher à accumuler les biens, le partage, voilà, on met tout en commun, hein. Et puis aussi une certaine perte d'indépendance, on va dire, par rapport à vous, mettons, votre vie, hein. Quand nous décidons de faire quelque chose, nous en parlons avec notre communauté, ou nous en parlons avec des responsables de la congrégation, ça s'appelle l'obéissance. On cherche à faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire ce qu'il y a de mieux, peut-être, hein, pour réussir sa vie, pour servir l'Église, servir les gens.
Et une obéissance donc, qui est partagée.
Voilà, c'est ça, obéissance mutuelle, obéissance, on ne fait pas à sa tête, disons, on est un corps, hein, une communauté ou bien une congrégation, et on est solidaire, parce que si tu fais à ta tête, le corps n'existe plus, hein, il est abîmé. Donc ça demande des renoncements, certainement des renoncements, mais je dirais dans toute situation, on a des renoncements, par amour. L'important c'est qu'on le fasse par amour. Si on le fait parce qu'on est obligé, on est plus libre, c'est pas une vie alors. Moi je me sens très libre.
Voilà, ça vient pas de nulle part, c'est fini pour cette fois-ci. À la technique aujourd'hui, c'était encore une fois Sébastien Gély. Pour le reste, cette émission a été préparée par Claire Rivière avec la participation de Marie-Noëlle Battaglia, Juliette Palmade et Chloé Pelleret, que je remercie, ainsi que l'équipe d'Arte Radio et tous les témoins que vous avez pu entendre s'exprimer au cours de l'heure que nous venons de passer ensemble. Le podcast et toutes les références sont à retrouver sur le site de La Grenouille. Merci aussi et encore à tous ceux qui nous ont écoutés, appuyés, critiqués depuis le mois de janvier et les débuts de cette émission. Ça vient pas de nulle part, on prend quelques vacances, on vous souhaite un bel été et on vous dit à la rentrée, Inch'Allah.